Bonjour à tous, bienvenue dans le débat de midi. C'est l'été, mais les sujets de société ne prennent pas de vacances et on en discute pendant une heure sur France Inter. Alors que vous soyez à la plage, en randonnée ou dans votre hamac, il y a sûrement un livre à vos côtés. Si vous avez poussé les portes d'une librairie pour y trouver l'ouvrage de vos vacances, vous avez sûrement remarqué la place prise désormais par le rayon vie pratique. Alors auparavant, c'était un peu le refuge des livres de cuisine et des manuels de culture physique avec des gens en combi short fluo sur les couvertures. Voilà, si, ces livres existent. Le rayon vie pratique abrite désormais des livres de développement personnel et ce rayon s'étend de plus en plus face au succès de ces manuels, guides, méthodes censés nous apprendre à mieux vivre. L'altruisme efficace, les 4 accords Toltec, le pouvoir de la confiance en soi sont quelques titres de ces succès de littérature de développement personnel, un genre qui se vend très bien et notamment après la crise sanitaire qui ont vu bondir les achats de ces livres de 19% en France. 6 millions de livres vendus entre mai 2021 et avril 2022. Les applications, les podcasts, les émissions se multiplient sur le sujet et le monde entier semble avoir trouvé le chemin pour répondre à ces problèmes existentiels, alors très appréciés par certains, décriés par d'autres pour le côté pensée magique, enrobé de marketing. Pourquoi le développement personnel rencontre-t-il un tel succès? Réagissez sur l'appli France Inter avec des messages vocaux ou écrits. C'est le débat de midi sur France Inter.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi. Sur France Inter.
Et la table du débat de midi est bien garnie en termes d'invités pour en discuter, puisque aujourd'hui nous recevons Camille Test. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
J'en prie, vous êtes professeur de yoga, ex-journaliste et autrice de livres politisés, Le bien-être. Également Albert Moukébert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien et docteur en neurosciences cognitives, auteur de Votre cerveau vous joue des tours. Et puis Christy, Vambre-Merch, c'est bien ça?
Vambre-Merch,
voilà, comme ça je serai sûr de la chose. Vous êtes coach professionnel et autrice de Trouver son Ikigai. Alors on va apprendre ce que c'est, vivre de ce qui nous passionne. C'est un livre recueil de témoignages de personnes qui ont, vous le dites, trouvé leur voie, accompagné d'explications et de conseils de l'autrice. Alors avant, juste au départ, pour commencer, Camille Test, je vous posais une question très simple.
Okay.
Voilà, on va essayer très simple, mais vous allez voir, c'est un peu compliqué de répondre aussi. C'est quoi en fait le développement personnel?
Aujourd'hui, le développement personnel, c'est une sous-catégorie du bien-être et c'est toutes ces pratiques, toutes ces techniques qu'on trouve sous forme de chaînes YouTube, d'accompagnement via des livres, via des applications qui ont vocation, en gros, à nous faire trouver le chemin de l'épanouissement, le chemin du bonheur, comme si c'était uniquement le fruit d'un travail personnel. Moi, je pense que c'est faux. On y reviendra.
On y reviendra, justement. Mais est-ce que vous avez compris, en travaillant aussi dessus, pourquoi ça a rencontré un tel succès?
Ça rencontre un tel succès pour deux raisons. D'abord, parce qu'on est dans un monde où on ne sait plus exactement quel est notre sens. Un monde où on est de plus en plus précarisé, où la planète brûle autour de nous, où on est aussi de plus en plus seul, de moins en moins ancré dans des communautés. Donc forcément, on cherche du sens. Et quand on cherche du sens, peut-être qu'on espère le trouver dans les livres, peut-être qu'on espère le trouver dans des accompagnements divers et variés. On est dans un contexte néolibéral. On est dans un système néolibéral dans lequel on est chacune responsable de nos bonheurs, de nos malheurs, en tout cas c'est ce qu'on croit. Donc forcément le succès de ces livres est au rendez-vous.
Christy, vous faites le même constat aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des livres qui correspondent à notre époque? Des livres ou même c'est-à-dire des séminaires, des coachs, des podcasts
Alors ce que j'ai appris en préparant l'émission, c'est que c'est un courant qui date du début du 19e ou du 20e, enfin c'est très très ancien. Donc peut-être qu'il y a eu du succès récemment, mais en fait ça date pas d'hier.
Bien sûr. Là, le fait qu'en fait c'est la multiplication des supports peut-être qui fait aussi qu'on s'y intéresse davantage et on le voit aussi, les ventes de certains livres sont assez faramineuses.
Ça explose. Mais moi je le prends plutôt comme un outil parmi plein d'autres. Pour arrêter de souffrir quand on souffre et aller mieux si on veut aller mieux. Voilà.
D'accord. Oui,
mais c'est pas le seul outil, loin de là. Enfin, c'est vraiment j'ai ma pharmacopée pour aller mieux. Je prends peut-être de l'ibuprofène, je prends une huile de massage. Vous voyez, donc j'ai pas juste un outil. C'est un outil disponible, parfois super onéreux quand vous avez des stages, des coachings et tout ça, et parfois pas cher du tout quand vous allez sur le compte Instagram de plein de gens qui le proposent et qui proposent plein de ressources gratos.
Albert Moukébert, c'est étonnant de voir à quel point, j'en parlais tout à l'heure, on le voit à quel point ça se multiplie aujourd'hui, notamment le phénomène de coach, on le voit de ces livres en effet qui rencontrent un succès incroyable. Ça veut dire que quelque part, il y a tout de même énormément de gens qui cherchent des réponses et qui pensent les trouver dans ces livres.
qui cherchent des réponses.
Oui.
Je ne sais pas s'ils pensent les trouver, parce que quand on regarde de plus proche, si on trouvait des réponses, on n'aurait pas besoin de multiplier les courants chaque quelques années.
Exactement.
Et à chaque fois, il y a un nouveau concept. C'est un peu comme les régimes minceurs ou... Si on avait trouvé un régime qui marche, pourquoi est-ce que chaque quelques mois, on a un nouveau régime qui est promu comme le keto, machin, diet, je sais pas quoi.
Alors, je vais vous dire, les tendances récentes, c'est loi de l'attraction, l'analyse transactionnelle, la pensée positive, le Ho'oponopo hawaïen, l'énéagramme et l'intelligence émotionnelle. Voilà, on est en effet, donc pour vous, vous metteriez ça au même niveau, en effet, que quand on parle de, par exemple, des régimes, le régime tendance de l'année, le régime tendance de l'été?
Ouais, c'est une sorte de régime, en fait, une, quand on parle des cas théoriques de ces différents trucs, ce qui sont souvent inexistants, mais souvent les mêmes mécanismes de fonctionnement. Mmh. C'est-à-dire qu'on prenne la pensée magique, la loi de l'attraction, le Ho'oponopo, etc., etc. On retrouve tout le temps les mêmes ficelles.
Mmh. Mais pourquoi finalement va-t-on vers ces méthodes-là? Parce qu'on le sait quelque part, il y a un coût marketing derrière chez beaucoup d'éditeurs, chez beaucoup de personnes. Pourquoi aussi, alors vous êtes spécialiste aussi du cerveau, pourquoi dans notre cerveau on se dit ça peut me faire du bien?
Parce qu'on va mal et parce qu'on a individualisé ces sujets. Et donc on se dit un peu, comme disait Madame Test, que c'est ma responsabilité, alors que c'est pas le cas. On sait qu'on est des animaux sociaux, qu'il faut prendre en compte plein de facteurs systémiques, etc. Et ça arrange tout le monde, quelque part, que ce soit les entreprises. Elles n'ont pas à augmenter les salaires, améliorer les conditions de vie, améliorer les conditions de travail, etc. Il faut juste dire, on va vous ramener un coach et ça va être, la responsabilité va être juste sur vous. On peut aller mal, et ça existe depuis toujours. C'est-à-dire, les solutions magiques ne sont pas nouvelles. Mmh. On peut remonter à l'oracle de Delphes. Mmh. On peut remonter très très loin. Un des premiers livres de l'humanité, c'est chez les Babyloniens, sur l'immortalité. J'ai le nom qui m'échappe, Enkidu et Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh. Voilà. Mmh. C'était pour comment ne pas mourir, comment améliorer, cette vision améliorative de la santé, de la psychologie, etc., etc. Et tout le temps dans cette optique de le faire sur l'individu. Donc c'est souvent quelles sont vos valeurs, comment est-ce que vous allez être aligné, etc. Comme si on ne dépend pas de déterminants sociaux, de déterminants hiérarchiques. Et c'est accompagné, c'est vraiment une sorte de package. C'est-à-dire, on a aussi des discours qui viennent des boîtes, genre la boîte, on est une famille, etc.
Ouais.
Mais c'est tout le temps, c'est hyper asymétrique, ça va tout le temps dans un sens et jamais dans l'autre.
Ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, Camille Tess, comme quoi aussi finalement ces méthodes de développement personnel correspondent à l'époque dans laquelle nous sommes, en effet dans une époque aussi très individualiste. Ces livres-là nous disent toujours, vous allez réussir à être riche, vous allez réussir à aller mieux et c'est vous la solution, et si ça marche pas, vous pourrez pas m'en vouloir.
C'est un peu l'un des grands pièges de la culture néolibérale, effectivement, c'est de dire que voilà, nous sommes responsables de nos bonheurs, de nos malheurs, et si dans cette quête perpétuelle de la fameuse meilleure version de soi-même, dans ce travail sur soi qui ne s'arrête jamais, on n'est toujours pas heureux, finalement, c'est de notre faute. Ça nous responsabilise. Donc si c'est de notre faute, c'est pas de la faute, je sais pas, d'un système politique, d'un État qui nous protège de moins en moins, de nos droits sociaux qui s'effondrent, d'une lutte contre les problèmes environnementaux qui ne se passe pas, c'est uniquement de notre faute. Et puis là où je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement pernicieux, la philosophe slovène Alenka Zupančič parle d'impératif biomoral. C'est-à-dire aujourd'hui, non seulement il faut travailler sur soi, il faut développer tout un tas de pratiques pour aller mieux, mais en plus, si vous ne le faites pas, vous êtes une mauvaise personne. C'est devenu une question morale. Si vous ne travaillez pas sur votre spiritualité, sur votre corps, sur vos manières de communiquer avec les autres, vous êtes une mauvaise personne. Et ce qui est grave, c'est qu'évidemment, encore faut-il avoir le temps, encore faut-il avoir l'argent de travailler sur soi. Et puis, est-ce que ça règle vraiment les problèmes? Pas forcément.
Mais pourtant, on le sait, enfin on le voit tout ça, en effet, on le constate. Mais là, j'ai quelques chiffres, en effet, assez impressionnants. Le marché du bien-être en Europe, c'est 133 milliards de dollars en 2020, par exemple. Donc ça veut dire que, quelque part, on le sait, ces choses-là, mais quand même, on y va parce que ça peut, comme vous disiez aussi tout à l'heure, Christy, ça peut, quelque part, nous faire un peu de bien.
Mais je suis pas sûre qu'on le sache en réalité. On le sait peut-être quand on travaille sur ces sujets, mais est-ce qu'on le sait? Enfin, est-ce que les gens qui s'achètent toutes les semaines un nouveau livre de développement personnel le sachent? Et puis, est-ce que finalement, moi, je crois pas qu'il faut juger ce genre de pratique. Je crois plutôt qu'il faut se demander, dans un système où on a l'impression que politiquement on ne peut plus rien faire, on ne va plus vers le militantisme parce qu'on a l'impression que ça sert à rien. On est contre une réforme des retraites, mais en fait, on a beau le crier dans la rue, ça ne sert à rien. Bah, ce qui nous reste, c'est travailler sur nous.
Oui, c'est ça, oui. Alors, Christy Van Bremesh, vous avez écrit un livre, alors donc qui s'appelle « Trouver son Ikigai, vivre de ce qui... »
Ikigai.
Ikigai, pardon, c'est « Vivre de ce qui nous passionne ». Donc, c'est sur une méthode japonaise. Aujourd'hui, pourquoi vous vous êtes lancé, finalement, dans l'écriture de ce livre, en sachant qu'il existe aussi déjà des livres qui parlent d'autres méthodes qui vont aujourd'hui nous parler de, eh bien, de vivre de ce qui nous passionne, de mieux travailler notre mental. Pourquoi vous êtes lancé dedans? Vous n'êtes pas dit, tiens, il y a déjà beaucoup de concurrence?
En fait, je me suis lancée dans le développement personnel à l'adolescence.
D'accord.
J'avais 16 ans, j'étais très, très, très angoissée. Et mon père m'a dit, ça passe, tu vas voir. Alors, je l'ai regardé genre, toc, toc. Mais lui, il était très calme et il m'a dit, j'étais vachement angoissée à ton âge, tu vas voir, ça passe. Et il m'a filé des cassettes en anglais, parce qu'il voulait que j'apprenne l'anglais, avec des contenus de développement personnel. Moi, je ne connaissais pas comment ça s'appelle, c'était genre Mieux Vivre 101. Et donc, j'ai écouté, ça m'a fait du bien. J'ai appliqué les concepts, donc je ne me rappelle plus. Puis, il m'a filé un autre bouquin, c'était Seven Habits of Highly Effective People. Donc, j'ai commencé à en lire et j'ai vu que écouter, lire, prendre des notes, changer mes habitudes... Avec d'autres choses, hein. Je faisais de la natation, ben oui, j'avais des amis, j'avais une autre... Ça m'aidait à me sentir en effet un peu apaisée, expérimenter. Donc en fait, c'était plutôt des expérimentations. Et j'avais une soif d'apprendre des trucs, de connaître et tout ça. Arrive la terminale, je me dis, ouais, la philosophie, ça va être génial, et j'ai rien compris.
D'accord.
Et donc voilà, donc j'ai continué à en lire. Certains bouquins, la plupart, c'était de la daube, donc je les ai laissés de côté. Et 2, 3, 4 ont vraiment, se sont mis dans mon paysage intérieur... et m'ont complètement transformé mes habitudes, ma façon de vivre. Et donc, du coup, je me suis dit, un jour, j'aimerais bien en écrire un, moi aussi. Enfin, j'en ai écrit plus qu'un, mais j'aimerais bien écrire des livres qui accompagnent mes lecteurs, qui leur donnent des pistes de réflexion, qui leur posent les questions que je me pose, et qui les incitent ensuite à tester des trucs. Mmh. Au pire, c'est de la daube. Ils le mettront sur un banc, comme moi j'ai fait pour les bouquins de daube. Au mieux, peut-être que ça va les aider. Vous voyez, je suis pas sûre en fait, parce que je pense que c'est quand même une rencontre entre un lecteur et un auteur. Et elle n'a pas toujours lieu, la rencontre.
Oui, mais le fait de ne pas être sûr, est-ce que c'est là où il n'y a pas un souci finalement?
C'est ça que
dedans.
J'adore, moi.
Ah, bah oui, mais aussi, c'est là où on peut douter, parce que nous, si je ne suis pas bien, si j'achète un livre dans ce sens, je me dis, tiens, je vais aller mieux, et en même temps, ça peut pas marcher.
Bah ouais, bah, vous êtes un adulte, vous êtes déçu comme pas. Pour pas mal de trucs. Moi, je suis vraiment très, très souvent déçue par les bouquins que j'achète. Mmh. Et ben, je les offre à quelqu'un, je les revends sur Vinted. Vous voyez, il se passe pas grand-chose. Ou bien, je vais à la bibliothèque et je le rends à la bibliothèque. Vous voyez, je m'adresse à des adultes qui peuvent apprécier le contenu, exercer leur jugement critique ou trouver... J'ai jamais reçu beaucoup, beaucoup de critiques aussi sur Amazon, par exemple. Ils me disent, c'est de la dope ton truc, ce sont des lieux communs, à change de métier. Et j'aurais dit, très bien, ce n'est pas pour toi, mon coco.
C'est ça. Albert Mukiller, quand vous entendez ça, justement, c'est en gros, on est adulte, donc on sait ce qu'on fait. Finalement, quand on nous parle de méthode, eh bien, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher.
Alors, il y a plusieurs points. Le premier, c'est sûr que ça marche pour certaines personnes, comme tout. Il y a le temps, on appelle ça les facteurs confondants. Mmh. Parfois, avec le temps, je vais mieux et j'attribue ça à un bouquin, j'attribue ça à un livre, etc. Mais quand on fait de la recherche, par exemple, sur la santé mentale, on ne regarde pas juste quand ça marche. On regarde quels sont les dégâts quand ça ne marche pas. Et c'est là où ça coince. C'est quand des personnes se retrouvent fauchées à force de payer des formations ou d'aller dans des stages de retraite silencieuse ou je ne sais pas quoi. Donc il faut regarder les gens pour qui ça ne marche pas. Et c'est là où les dégâts arrivent. Et concernant le truc, les gens, c'est des adultes, ça dépend. Par exemple, c'est comme si je dis, je vais chez mon médecin me donne un médicament qui est mauvais, je tombe encore plus gravement malade, je vais le voir, je lui dis, tu m'as maltraité, il me dit, mon coco, tu es adulte, tu avais juste qu'à aller voir un autre médecin. Tu me mets sur le banc, tu dis, ce médecin, c'est de la daube, et tu trouves un autre adulte. À un moment, on est en train de mélanger plusieurs choses. C'est-à-dire, il y a d'un côté la santé mentale. Est-ce qu'on veut, en tant que société, que la santé mentale dépend juste d'adultes qui décident, ou est-ce qu'il y a une responsabilité partagée de s'assurer? Par exemple, moi je suis neuroscientifique, une grande partie des bouquins de développement personnel citent souvent le cerveau, ils vont parler de la dopamine, de la sérotonine, de la neuroplasticité, les neurosciences ont montré que, plein de fois, c'est complètement faux, même pas complètement faux, c'est juste inventé. Est-ce qu'on veut une société où c'est un peu le marché, où toutes les idées se valent? Et c'est un choix de société à faire. C'est pas moi de dire est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, est-ce que c'est souhaitable ou est-ce que c'est pas souhaitable. Mais je trouve que c'est justement ça, ce dont je parlais au début. C'est une sorte de déplacement de la responsabilité, ou la responsabilité sur plein de sujets qui, peut-être seraient souhaitables ou pas, pour moi ça l'est pas, vont être à 100% sur les épaules d'un individu qui souvent va mal.
C'est ça, oui.
je suis pas sûr que c'est de la meilleure façon à faire.
Chrissy, vraiment, quand vous entendez ça, justement, sur cette la responsabilité, vous le disiez, hein, on est adulte, la responsabilité de chacun, c'est-à-dire de faire porter, en effet, la réussite ou non de la méthode proposée sur le lecteur. Est-ce que finalement, c'est pas un peu se dédouaner de ce qu'on écrit?
J'essaie de poser un cadre. Donc de dire ce que je te propose là, ça a marché éventuellement juste sur moi,
sur vous,
ou
oui.
Sur moi et d'autres. Je suis pas médecin, donc je dis bien voilà ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. Donc
vous précisez que vous n'êtes pas scientifique.
Ouais,
c'est ça, vous
ouais.
Précisez. Hein.
Et j'ai aussi conscience que le principal risque, c'est d'être déçu. Donc, vous voyez, j'essaie de, comme on dit en anglais, de lower expectations, de baisser les attentes,
oui.
Et de dire, essaye, peut-être que tu vas trouver ça utile ou pas utile. Parce que je sais que ça marche pas toujours. Il faut avoir aussi parfois une forme de croyance. Si t'agis pas, ça va pas marcher. Bah, oui, donc, voilà, je pose un cadre et je dis, essaye.
Albert Hunker, je vous voyais réagir.
En fait, parce que peut-être c'est mon côté un peu. C'est-à-dire. On ne peut pas prendre soi comme expérience de généralisation. Je peux conseiller à un pote, par exemple, lui dire « j'ai essayé ce truc, ça a marché, vas-y ». Mais par exemple, imaginez quelqu'un qui ne me connaît pas vient me voir en tant que psy ou en tant que coach, parce que tout le monde est en train de gérer la santé mentale, c'est ou en tout cas la psychologie. On ne peut pas se baser sur ce qu'on appelle en science des preuves anecdotiques. Et surtout, quand on regarde, est-ce que c'est juste le risque, c'est juste d'être déçu? Quand on regarde les rapports de la Miviludes, on retrouve que non, il y a des risques de dérive sectaire,
on va en parler
des
de
risques
ça, bien sûr.
D'embrigadement. Donc il y a des risques qui sont réels, qui sont documentés, qui montrent que ce n'est pas juste. Je suis déçu comme si j'achète un roman de science-fiction et j'aime pas les personnages, les trouve plats. Parce que c'est... En fait, l'idée que j'essaye de dire, c'est que les sujets qui traitent de la santé mentale, qui traitent du cerveau, sont ce qu'on appelle en science des sujets performatifs.
Qu'est-ce que ça veut dire, performatif?
Des sujets performatifs, c'est-à-dire la croyance qu'on a sur un sujet impacte notre fonctionnement. Par exemple, un sujet non performatif, si je crois que les anneaux de Saturne sont faits de marshmallows,
ouais.
Ça change pas grand-chose à ma vie. C'est pas performatif. Par contre, si je crois que si j'ai des pensées négatives, je vais avoir plus de chances de me faire larguer. Et si j'ai des pensées positives, j'ai plus de chances de décrocher un job, ça va changer la manière dont je fonctionne. Il faut rappeler que, par exemple, Rhonda Byrne, l'écrivaine de The Secret, qui est la base, qui est un peu la bible de la loi de l'attraction,
ouais.
Elle a quand même réussi à dire que le tsunami de 2004, c'est que les gens qui habitaient là-bas, ils avaient une très forte énergie négative, et donc ils ont attiré quelque part la catastrophe vers eux. Ouais. C'est un exemple extrême, mais on peut le diluer sur plusieurs versions. Et en tant que psy, je vois aussi des personnes qui sont passées par des cases de développement personnel. Et je suis pas en train de dire que les personnes qui pratiquent le développement personnel sont bons ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les cas théoriques. Comment est-ce qu'on est en train d'acquérir de la connaissance, etc., etc. Mais qui viennent me voir et qui me disent, je pense positivement toute la journée, je vais pas mieux. Parce que la dépression, c'est pas une question de volonté. Un trouble anxieux, c'est pas une question de volonté. Une femme qui vit des remarques sexistes tous les jours au taf, c'est pas une question de volonté. On lui dit, passe outre. On va par exemple parfois dénoyauter des philosophies vieilles comme le monde, comme je sais pas la philosophie stoïcienne. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et oublie ce que tu peux pas contrôler. Bah, je peux pas contrôler les remarques sexistes que je me prends au taf, mais je peux pas me focaliser pour me dire bah c'est pas grave.
Bien sûr. Ouais.
Et du coup il y a tout ce double discours de on va vous dire comment faire. Quand ça marche vous nous dites merci et quand ça marche pas ben c'est de votre faute. Et donc on n'est jamais perdant.
Ouais, c'est ça. Alors,
On gagne avec vous, et quand vous perdez seul.
Alors, sur l'appli France Inter, Julien nous a laissé un message également. Alors, justement, Camille Test, ça peut aussi peut-être vous intéresser. Il me parle de leur développement personnel en ces termes. Je lis, on peut en rire, mais quelle que soit leur valeur, la littérature du bien-être pousse les lecteurs à agir. Et lui, il dit, alors peut-être que voilà, ça peut être gênant, mais c'est un peu mieux que de blâmer la société ou le système. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que c'est ça, eux ils disent voilà bon alors on ne sait pas ce que ça vaut. En effet, comme vient de le dire Albert Moukébert, bon il y a pas de motif scientifique, ça repose sur pas grand chose. Mais en même temps, moi j'ai lu ça et ça me pousse à agir.
Ben, en fait, agir, ça veut tout et rien dire. Agir, est-ce que quand on agit, on vise l'efficacité? C'est-à-dire, j'agis pour être plus heureux, pour être plus heureuse. Ben, est-ce que si je me concentre uniquement sur moi, si je m'auto-optimise, si j'utilise tout un tas de méthodes de développement personnel, est-ce qu'à la fin, je suis heureux et heureuse? En réalité, pas tellement. Pour la simple et bonne raison que même si à la marge, il y a quelques personnes qui vont être un peu plus heureuses, en réalité, le bonheur, c'est une question collective. Comment notre société est-elle organisée? Est-ce qu'aujourd'hui, notre société rend possible possible l'épanouissement des uns et des autres. En fait, en réalité, on sait très bien que non. Par exemple, il y a un médecin canadien qui s'appelle Gabor Maté qui a sorti récemment un bouquin qui s'appelle « Le mythe de la normalité » qui explique qu'aujourd'hui, la façon dont notre société est agencée fait que nous sommes tous et toutes placés quelque part sur le spectre du traumatisme. Mm-hmm. La philosophe Barbara Tiegler dit la même chose. Dans son livre « Il faut s'adapter », elle montre qu'aujourd'hui, notre éducation depuis l'école fait que nous sommes faits et on nous apprend à nous adapter à un système néolibéral capitaliste et plus rien n'est fait pour favoriser notre propre épanouissement. Donc, je ne crois pas que le développement personnel pousse les gens à agir politiquement pour réformer ces structures sociales. Mmh. Le développement personnel, justement, nous détourne de l'engagement collectif. Personne n'a ouvert un livre de développement personnel et s'est dit « Ah ok, bah super, je vais défendre mes droits. Ah bah ok, je vais défendre des réformes qui vont permettre aux personnes les plus pauvres d'être un peu moins précarisées. »
Vous dites que c'est complètement individualiste, en fait, c'est ça.
Mais en réalité, à la marge, on se rend bien compte que finalement, les gens qui, après être passés, et moi c'est mon cas, dans un parcours très développement personnel, les personnes qui s'engagent après ça, elles ne le font pas grâce au développement personnel. Même si peut-être qu'à la marge, ces pratiques les ont un peu empuissancées, leur ont donné peut-être un petit peu plus de confiance dans leur pouvoir d'agir. Mais en réalité, c'est souvent en critique, en réaction, en se disant « Bon, en fait, je suis arrivée au bout de ce truc-là. Vous parliez tout à l'heure de votre parcours. Moi, j'étais plongée dans le développement personnel à l'adolescence et c'est finalement en revenant un petit peu et en réalisant que, par exemple, dans le développement personnel, on ne m'avait jamais dit en tant que femme, dans un système patriarcal, vous vivez un certain nombre de violences, vous vivez un certain nombre d'inégalités. C'est en politisant finalement ma réalité sociale que je me suis mise à agir, à me battre, à défendre des idées. Ce n'est pas du tout en restant dans un spectre purement individuel.
Alors on va continuer à en parler du développement personnel, notamment, est-ce qu'il correspond véritablement à notre société, ce besoin de bien-être, une époque à problème. On en discute dans un instant dans le débat de midi, juste après Stéphane Escher avec Ma vie préférée.
Ne rien devoir, ne rien vouloir, ne rien raconter, seulement écouter. Dormir dans l'après-midi, être éveillé avant minuit et tisser des chansons avec toi à ma côté. Je pense que ce serait ma vie préférée. Et parfois j'entendais et si deux mots se marieraient, être surpris, être émerveillé, ce hasard entre futur et passé, et te tenir sous les vignes. Je pense que ce serait ma vie préférée.
Sur France Inter.
Le débat de midi, nous parlons eh bien du succès mondial, hein, du développement personnel, que ce soit en librairie, que ce soit dans des émissions, que ce soit sur des podcasts, aussi des séminaires, ça n'arrête pas, c'est vrai qu'on en parle énormément. Alors, il y a beaucoup d'achats de livres de développement personnel et également beaucoup de critiques. Et à propos de livres, eh bien sur l'appli France Inter, vous pouvez laisser vos messages et également vos notes vocales. C'est ce qu'a fait Eric de Paris qui, lui, s'inquiète justement de la place des livres de développement personnel en librairie.
Je me faisais cette réflexion récemment en étant dans des Fnac et dans des Cultura et autres consorts que la place ont pris les rayonnages du développement personnel. Et à l'inverse, la place réservée aux ouvrages d'art, d'histoire, de philosophie, de sociologie, tout ça, réduisent comme peau de chagrin. Et donc voilà, je me demande s'il n'y a pas un effet de vase communicant avec cette société très tournée sur soi-même, refusant de voir le monde tel qu'il est.
Voilà, c'est Eric de Paris, hein, donc qui nous a laissé cette note vocale, comme vous pouvez le faire sur l'appli France Inter, ainsi que vos messages. Albert Moukébert, c'est assez intéressant de voir ça, c'est-à-dire que ce constat, c'est vrai qu'on le fait, hein, quand on pousse la porte d'une librairie, on voit en effet cette place mais incroyable, ou même quand on va dans une Fnac sur les développements personnels, peut-être au détriment d'autres livres et d'autres disciplines. C'est le signe aussi d'une époque, ou alors là, on est vraiment dans un réflexe commercial, en fait, d'éditeurs qui se disent, ça marche, donc on en profite.
Il y a toute une discipline qui s'appelle l'architecture du choix, c'est-à-dire comment est-ce qu'on architecte le choix du consommateur. Et on sait qu'un livre qui est en devanture a plus de chances de vendre qu'un livre qui est derrière, etc. Et donc, je pense que c'est ce qu'on appelle des boucles de rétro-contrôle, c'est-à-dire ça marche, donc on le met un peu plus en avant, ça marche, on le met un peu plus en avant. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui se dit, moi, je suis payé par le lobby du développement personnel. Peut-être que ça existe, mais je pense qu'il y a aussi ces effets qu'on appelle de boucles de rétro-contrôle. D'ailleurs, c'est cette notion, et il y a une question avant sur la personne qui disait de déresponsabiliser complètement l'individu.
Oui.
Et ben, il faut aussi se rappeler que quand on parle de société ou de système, le système est fait d'individus au final. Et c'est à nouveau cette notion de boucle de rétro-contrôle. Il y a l'individu, puis il y a le groupe social, et puis il y a le groupe sociétal. Et c'est des vases communicants. Donc, quand on parle de déresponsabilisation, de responsabilisation, c'est une question plus de dosage que de dire est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là. Et je pense que la même chose pour les librairies, c'est-à-dire des gens en achètent, les libraires le mettent devant, mais oui, effectivement, et maintenant on voit même dans des rayons de développement personnel, des bouquins de développement personnel dans les rayons sciences, des bouquins de sciences qui sont cachés quelque part, complètement cachés, on les mélange. J'ai déjà vu des livres de collègues qui sont des neurologues, des psychiatres, etc., à côté de livres de personnes qui ne bossent pas dans le même sujet parce qu'il y a le mot cerveau dans le titre.
Oui, c'est ça, oui, exactement. Christy, vraiment, mère, juste avant le disque, hein, on écoutait Stéphane Escher, Camille Test, justement, évoquait le fait qu'elle aussi, comme vous, eh bien, à l'adolescence, voilà, elle s'interrogeait sur ce propos et vous vouliez d'ailleurs lui répondre à ce sujet.
En fait, c'était sur le côté individualiste du développement personnel. C'est souvent un reproche qui m'est fait par les personnes qui viennent lire mon blog ou à mes stages, etc. Et je suis d'accord que pendant un moment, on se regarde l'âme, le nombril, le corps, etc. Mais les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui souvent prennent beaucoup, beaucoup de temps. Qui ont déjà l'engagement dont vous parlez pour la société, dans leur métier, qui sont souvent des soignants ou d'autres coachs ou des gens qui sont engagés dans leur communauté familiale ou bien plus large, comme vous disiez, Albert. Et elles se sont peut-être un peu perdues. Comment je prends soin de moi quand je prends tout le temps soin des autres, des engagements? Et donc, moi, je leur dis, OK, là, on a une petite bulle. C'est pas une bulle qui va durer toute la vie, enfin, tu vois, ça va être peut-être 5-10 minutes par jour, ça va peut-être être pendant les 6 semaines qu'on va faire le stage, parce que je fais des stages par internet qui durent 6 semaines, mais ensuite, et même pendant, il y a une interaction toujours entre l'intérieur et l'extérieur. Et bien sûr que l'idée, c'est pas juste de prendre soin de moi, c'est de prendre soin de moi pour après être mieux en capacité, de remplir mes engagements et puis de me sentir peut-être un peu allégée d'un certain fardeau. Voilà.
Camille Test, vous entendez ça finalement? Vous voyez, il n'y a pas que l'individu, alors on n'est pas centré sur l'individu.
Bien, en fait, moi, je suis assez curieuse de savoir dans quelle mesure est-ce que vous ou d'autres personnes qui travaillent dans le développement personnel encouragez vraiment le retour au monde. Moi, je valorise ces moments pour soi. J'en ai aussi. Moi, je suis prof de yoga. C'est des pratiques que je trouve hyper intéressantes, très, très bonnes pour la santé par ailleurs. Mais à quel moment est-ce que vous parlez aux gens de solidarité? Vous accompagnez de femmes? Est-ce que vous leur parlez? Est-ce que, par exemple, vous vous tournez vers les sciences sociales qui démontrent les rapports de pouvoir qu'il existe entre les femmes et les hommes, par exemple, dans un contexte patriarcal. Donc, si vous ne décrivez pas la réalité sociale des personnes et les conséquences que ça a sur leur vie, comment pouvez-vous prétendre, je dis ça sans agressivité, mais accompagner, aider réellement ces personnes si vous ne mettez pas le doigt sur les causes réelles de leurs problèmes ?
Christine Van Mouche.
J'ai pas de réponse.
Bah écoutez.
Mon seul engagement militant, c'est plus au niveau de comment, en allant mieux, j'évite de nuire. Et ensuite, éventuellement, j'en aide d'autres. Parce que je prends soin de mon jardin et je montre comment je prends soin de mon jardin. Et je suis au courant des problèmes de la société que ça, mais je vois pas comment moi je peux agir dessus, à part en faisant ce que je fais. Voilà.
Mais justement, est-ce que c'est pas ça le problème en réalité ? Est-ce qu'on pourrait pas, à travers nos pratiques d'accompagnement, de bien-être, ou thérapeutique et autres, rappeler aux gens, leur refaire prendre conscience qu'en réalité nous sommes tous des citoyens, nous faisons tous partie de cette société, et nous avons tous et toutes un pouvoir d'agir, de nous organiser, de nous défendre, de défendre nos droits, peut-être de voter si on croit au vote, etc. Mais bien sûr que vous avez un pouvoir d'agir, un pouvoir politique réellement.
Voilà ce que dit en fait Camille Test aussi, Christine Van Mouche, c'est en gros, c'est une sorte de bien-être engagé, on va dire, voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire engagé autrement que sur l'individu, mais est-ce que c'est possible finalement de prendre soin de soi, en se tournant vers les autres ?
Bien sûr, mais en fait, moi, je dis pas aux gens, voilà quel doit être ton engagement, parce que les gens qui viennent me voir sont déjà engagés dans plein de trucs, et je leur dis plutôt, voilà comment prendre soin de toi pour pouvoir ensuite porter l'engagement qui t'anime. Je fais comme ça.
D'accord. Alors Albert Moukébert, moi j'avais une question, et c'est vrai qu'il y a un mot qui revient souvent en ce moment, enfin pas en ce moment, à notre époque on va dire, hein, depuis quelques années maintenant, c'est le mot coach. Et alors moi en préparant cette émission, je me suis dit pourquoi aujourd'hui c'est plus simple de dire je vais voir un coach qu'un psy ?
Pendant une période c'était pour la stigmatisation d'aller voir un psy, je suis pas fou, j'ai pas besoin d'un psy, mais d'accord, je pense qu'on n'est plus là-dedans. Non, moi je pense que les coachs et les psys sont deux fonctions qui sont nécessaires dans une société, dans le sens où on fait pas la même chose. C'est-à-dire moi par exemple, je pourrais pas aller... À la base, le coaching c'était sur des compétences professionnelles. Ouais. C'était pas du tout sur le bien-être. C'est, je sais pas, j'ai créé une boîte, on était 10 potes, on est en train de devenir 40, 50, 100, 200, et je sais pas comment gérer ça.
Voilà, oui, c'est ça.
Je prends quelqu'un qui s'y connaît, qui va me former, me coacher pour... Et petit à petit, il y a eu un glissement où les coachs commencent à s'occuper des angoisses, de l'anxiété, de ma qualité de sommeil, de ma colère, de mon agressivité. Mais à la base, les coachs sont supposés... C'est vraiment un truc dans le monde professionnel de l'entreprise, de gérer les compétences d'entreprise, que moi, je serais complètement pas habilité à faire. Je pense que petit à petit, il y a eu ce glissement. Et surtout, une grande partie du business des coachs, c'est pas de coacher des gens, c'est de former d'autres coachs. Et ça devient une sorte de... Beaucoup de fois, des personnes vont aller voir un coach et petit à petit, ils se disent « Ah ben, j'ai découvert avec ma coach qu'en fait, je devrais devenir coach. » Et il y a plein de certifications et ça rapporte beaucoup d'argent. On va pas se
cacher
derrière nos doigts. C'est-à-dire ça rapporte beaucoup plus d'argent de vendre une formation que des séances individuelles qui risquent de s'arrêter, etc., etc. Après, on peut faire une certification, on devient des coachs certifiés, en sachant que c'est pas du tout encadré par la loi. Donc, on peut demain, nous quatre ici, ouvrir une école de coaching et appeler ça, je sais pas, la certification débat du midi, et ouvrir ça. Et après, les gens peuvent dire, on est certifié. Par exemple, vous parliez de la méthode Ho'oponopopo,
oui,
machin.
Je
sais pas si on peut citer, mais c'est un monsieur qui s'appelle David Lefrançois qui fait ça, qui est dans un institut qui s'appelle l'Institut des neurosciences appliquées. Il n'y a aucun neuroscientifique dans son institut de neurosciences appliquées. Donc, c'est le titre du truc. Et il n'y a personne qui bosse sur le sujet. Parce que ce n'est pas encadré par la loi. Et donc, évidemment qu'il va y avoir des dérives. Un week-end, ça coûte 3 000, 4 000, 5 000 balles. Donc, c'est quand même réservé à une certaine classe sociale. Ou à des personnes qui sont tellement dans la difficulté, qui se disent, c'est mon dernier espoir, je suis prêt à payer n'importe quoi pour aller mieux. À côté de ça, il y a tout le mouvement contre la médecine. Donc, je veux pas prendre de cachet. Ils vont me casser le cerveau, etc., etc., etc. Et il y a aussi la responsabilité de nous, les chercheurs. C'est que le sujet, on le maîtrise pas encore très bien. Et ça, on veut pas le dire. Mais vous allez voir un psy. Vous pouvez tomber sur un psy très bon, un psy pas bon du tout. Parce que le sujet est très difficile. Parce que, aussi bien en neurosciences, peut-être que ce serait bien à savoir, mais les IRM fonctionnels, on les a depuis 1991. Ça fait à peine 30 ans. C'est très récent. intéressant. Ouais. La psychologie, on a vraiment commencé à avancer depuis, allez, 60, 70 ans. On n'est pas encore assez bon.
Alors que le coach, lui, par contre, apporte des réponses plus faciles, plus rapides.
Non, surtout le coach n'a pas les mêmes contraintes. C'est pas du tout, moi, si je veux demain développer une thérapie, etc., je dois faire un groupe expérimental, un groupe contrôle, faire valider ça par mes pairs, publier dans un journal, un comité de revue scientifique, que quelqu'un le réplique. Est-ce que ça marche? Il y a des facteurs confondants. Est-ce que ça marche pour les Français, donc ça marche pour les Américains, etc., etc. Ouais, c'est tout un truc. Un coach peut dire, j'ai trouvé une technique, ça a aidé beaucoup de gens que je connais, donc je vais en faire une méthode, et je vais la certifier. Et encore une fois, c'est parce que la discipline est ce qu'on appelle ambiguë, c'est-à-dire on ne la maîtrise pas assez bien, et ça va prendre du temps, parce que c'est un sujet qui est très très difficile. Le cerveau est un des organes les plus complexes qu'on connaisse de l'univers, et donc en attendant qu'on devienne meilleur, il va y avoir une porte ouverte à plein de trucs qui marchouillent ou qui marchent pas, et ça rapporte de l'argent. Et il faut savoir qu'une session avec un coach, c'est quasiment 3 fois le prix d'une session avec un psy. Et je suis pas là pour dire les diplômes, etc., mais pour devenir psy, c'est bac plus 5, vous pouvez être coach en 2-3 mois.
C'est
vraiment ce qu'on appelle une sorte d'asymétrie argumentative. Moi, pour vous convaincre, je dois faire un effort de dingue, mais un coach, il peut juste vous dire, vous prenez un peu ce truc de... Vous prenez ce que vous avez envie et vous laissez de ce côté ce que vous voulez pas. Sauf que moi, je m'y connais pas. Comment je sais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Je suis pas expert du truc.
Bien sûr. Kamita, c'est ça aussi qui est assez... mais c'est assez étonnant quand on lit, quand on voit ces livres, certains livres qui fonctionnent très bien, certaines méthodes ou certains coachs dont parlait Albert Moukébert, c'est que il y a quand même derrière rien de scientifique. Et est-ce que pour vous, ça participe aujourd'hui, on le voit, on l'a vu notamment au moment des confinements, quand tout le monde parlait du Covid, à une certaine défiance envers la science? Aujourd'hui, on est prêt à se donner à des méthodes qui n'ont aucune justification et aucun tampon scientifique dessus.
C'est vrai que dans le développement personnel, on est souvent dans le pur domaine de la croyance ou en gros de quelque chose d'un peu empirique. Ça a marché pour moi, vous le disiez tout à l'heure. Ça a marché pour moi, donc voilà, j'écris un livre où je vous promets une méthode qui marchera peut-être pour vous. C'est souvent un discours un peu pseudo-scientifique ou des termes qui ont l'air un peu scientifiques. Voilà. Le quantique, typiquement, c'est un terme qu'on entend beaucoup. On se dit, si c'est quantique, c'est bon, c'est de la science. Il y a un petit côté un peu rassurant. Mais le développement personnel, sur ce point, n'a rien inventé. C'est la même chose que des crèmes antirides qui vont nous vendre des espèces de molécules qui, soi-disant,
on n'a jamais vu, qui apparaissent d'un coup.
Et en fait, peu de personnes, en réalité, ont les compétences de savoir si c'est vraiment le quantique, c'est vraiment quelque chose de scientifique ou pas. Voilà. Donc, en tout cas, c'est assez drôle, c'est assez paradoxal. Il y a à la fois cette espèce d'utilisation d'un discours scientifique qui légitime un petit peu, et à la fois, effectivement, une défiance envers les sciences qui est assez culturelle, et c'est vrai, est de plus en plus importante, avec tout un tas de discours complotistes qu'on retrouve énormément sur les réseaux sociaux, et qui sont, il me semble aussi, souvent le fait d'une défiance compréhensible envers les élites, envers l'État, envers l'organisation politique, qui nous rend à nouveau de plus en plus précaires, avec une partie du monde qui se gave et l'autre partie qui meurt de faim ou qui se retrouve dans des situations de pauvreté vraiment très graves. Et donc, parfois, l'envie de se créer une espèce de récit autour de complots, etc. Donc
un récit fantasmagorique autour, en effet, des élites qu'on voit à chaque fois, en effet, et la science, bien sûr, n'y échappe pas. Christine Van Remmerch, ce que disait tout à l'heure Albert Moukébert, ou ce que dit aujourd'hui, là, à l'instant, Camille Test, par rapport à la science, quand vous rencontrez, en effet, aussi des gens, notamment lors de vos séances, est-ce que vous avez des personnes qui, aujourd'hui, se méfient de la science et le disent clairement? Que la science n'apporte pas des réponses qu'ils recherchent.
Elles m'en parlent pas à moi parce qu'elles savent que elles sentent que je suis pas un terrain anti-complotiste. Moi, je pose pas la science et la croyance, parce que c'est des croyances finalement, le développement personnel, c'est je crois qu'en agissant, je peux aller mieux. Je pense qu'on peut à la fois avoir les pieds super ancrés dans la terre. Moi aussi, je suis yogi. Alors, depuis que je suis toute petite, je suis pas prof parce que je suis vraiment...
Vous faites du yoga.
Yogi, je fais du yoga avec ma mère depuis que je suis petite.
D'accord.
Donc je suis pas devenue prof parce que je suis quand même pas très souple et je suis très tête en l'air, mais ça me fait quand même vraiment du bien et je sens que je suis à la fois les pieds ancrés et la tête dans le ciel, quoi. Et donc, je pense qu'on a le droit de se dire je vais agir, je vais être rationnel. Si je pense que le vaccin ou si je dois me faire vacciner, je vais me faire vacciner. Et à la fois, essayer aussi des choses qui sont moins dans le domaine de la science, de rationnel, du prouvé. Je ne suis pas obligée d'opposer les différentes méthodes. Je pense que différents courants de poétique, d'empirisme et de rationalité peuvent coexister dans une seule personne, sans que ça s'oppose.
D'accord, oui, mais concernant, par exemple, le vaccin, on voit que c'est des choses quand même qui fonctionnent. On se dit, quelque chose de parallèle, ça peut être dangereux aussi, il faut faire attention.
Et ben alors, moi, je me suis vaccinée et je me suis mis aussi des tartines d'huile essentielle. Je ne sais pas ce qui m'a provoqué, protégé du Covid.
Ah ben je pense, on peut le dire aujourd'hui, c'est plutôt le vaccin.
Ben je l'ai pas eu, tous les gens autour de moi l'ont eu. On peut aussi dire, j'essaye plusieurs méthodes et en effet, je suis pas sûre de laquelle va marcher.
La question c'est quel est le risque que je prends quand j'essaye ces méthodes. Et encore une fois, c'est comme si je dis, en fait, c'est des mots un peu techniques. Déjà je veux corriger, c'est Olivier Madelrieux qui fait Ho'oponopopo, et c'est David de François à l'Institut des neurosciences appliquées. Donc déjà ça. La deuxième chose sur la science. Là aussi, on parle souvent de défiance envers la science, mais il n'y a pas vraiment de défiance envers la science. Il y a une défiance envers ce qu'on appelle des sujets socio-scientifiques. C'est-à-dire les personnes qui ne se sont pas fait vacciner, elles ont mal à la tête, elles prennent du Doliprane. Elles ont une carie, elles vont chez le dentiste. C'est une question de confiance aussi. Et c'est un mélange, donc les sujets socio-scientifiques, c'est un mélange de sujets qui sont liés à la science, mais qui sont aussi liés à la politique. Il y a plusieurs manières de faire vacciner une population, il y a plusieurs manières de limiter le déplacement des gens. On n'est pas obligé peut-être de faire des bulletins de sortie, des autorisations de sortie, il y a plusieurs manières, et ça c'est de la politique. Mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est un peu ce qu'on dit des preuves anecdotiques. C'est-à-dire, c'est un peu comme si, imaginez que moi je viens et je vous dis, en fait moi, je connais plein de gens qui ont fumé toute leur vie, qui n'ont jamais eu de cancer. Donc peut-être que c'est pas mal que vous fumiez aussi.
Oui.
C'est là où c'est important de faire ces trucs avec lesquels on se casse la tête, dont je parlais tout à l'heure, de faire du double aveugle, de faire des protocoles expérimentaux, etc., etc. Parce que si ça se trouve, en fait, on fonctionne de manière probabilistique. Si ça se trouve, moi, je fais partie des 2% qui ont fumé et qui n'ont pas eu de problème de santé. Et là, je suis en train de faire une sorte de plateforme et de dire, en fait, vous devriez tous fumer parce que moi, je n'ai rien eu.
Oui.
Et c'est là où ça devient un peu plus... compliqué, parce que on n'est pas en train de parler d'un truc aussi clair que la cigarette. Et là aussi, c'est important de le dire, il y a beaucoup de gens pour qui ça a marché. Sans aucun effet secondaire, le développement personnel, ça a très bien marché, ça les a aidés, et je suis très content pour eux. Mais il y a une différence quand on parle d'individus pour qui quelque chose a marché, et quand on transforme ça en recommandation. Et c'est ça où il faut faire attention. C'est-à-dire, je rencontre quelqu'un qui me dit, moi je me suis pas fait vacciner, j'ai mis un verre d'eau sur la tête tous les matins de 9h à 9h10 parce que ça m'aide à recentrer mes énergies et j'ai pas eu le Covid. Je vais jamais lui dire, ah mais c'est complètement stupide. Je vais dire, je suis très content pour vous que soyez pas tombé malade, mais de grâce ne le recommandez à personne. Et donc il y a une différence entre qu'est-ce qui marche pour moi et à quel moment je décide de le systématiser.
Oui, de penser qu'on est universel.
Et c'est pour ça que quand on évalue quelque chose, il faut pas juste regarder les gens pour qui ça marche. Quels sont les dégâts des personnes pour qui ça ne marche pas, les personnes qui ont été moins chanceuses, qui se sont retrouvées soit embrigadées par des combats féministes dans le féminin sacré, soit embrigadées à perdre tous leurs sous, parce qu'à chaque fois on leur disait « Ah bah là tu as déjà fini de nettoyer ta première chakra, il faut maintenant nettoyer la deuxième », soit à qui on a changé toute leur vie,
On va parler de ça, justement, dans un instant. Vous avez besoin, mais je sais, vous êtes impatient d'en parler, et c'est tant mieux, c'est ce qu'on aime dans le débat de midi, on continue à parler développement personnel, et justement, jusqu'où ça peut aller cette soif et peut-être même l'embrigadement, comme le regrettent certains officiels aujourd'hui. Mais en attendant, on écoute Arlo Parks avec Blades et c'est très bien. Light like blades through your body.
I catch a whiff of your rose-tipped tea.
Inter. Jean-Mathieu Bernin, le débat de midi.
Le débat de midi, nous parlons du développement personnel et ça fait beaucoup réagir sur l'appli France Inter. Vous pouvez nous laisser des messages également, et bien des messages vocaux pour en parler autour de la table. Camille Thèse, professeur de yoga et journaliste, autrice du livre Politiser le bien-être. Albert Moukébert, psychologue clinicien et docteur en neurosciences cognitives. Et également Christy Van Bremerch, coach professionnel. On en discute bien sûr de développement personnel. Alors justement, Camille Thèse, comme vous parlez aussi de développement personnel engagé, il y a un message de... Alors, quelqu'un qui s'appelle Mocotel. Bon, je ne sais pas si c'est voilà, un pseudo. Une personne qui nous dit, alors une chose assez intéressante, il dit « Je n'ai pas entendu le fait dans cette émission que dans cette démarche de développement personnel, il y a aussi, il me semble, un changement dans notre société, le désir de prendre du pouvoir sur sa vie et de ne pas tout laisser à des... comme vous le disiez tout à l'heure, des sachants, voilà, entre guillemets. Cela ne s'oppose pas, au contraire, cela peut être le premier pas d'une personne qui essaie de s'autonomiser et qui ira plus loin ensuite avec un professionnel. Est-ce que, finalement, il y a un peu de ça aussi dans le développement personnel, de se dire que bah, si je prends soin de moi, ça veut dire que je vais être aussi un individu plus conscient.
Alors, je rejoins cette personne et je trouve ça effectivement assez chouette, finalement, qu'on soit dans une société où n'importe qui peut décider eh ben, de travailler sur soi, de regarder un peu sa propre psyché, de se poser des questions sur le sens de la vie. Et c'est vrai qu'il faut bien dire, c'est aussi ça qui a permis sans doute le développement personnel, le fait de démocratiser cette recherche un peu qui peut-être pendant longtemps a été l'apanage de gens qui pouvaient lire de la philosophie extrêmement compliquée, quoi qu'on pourrait discuter de est-ce que finalement la philosophie est si compliquée que ça. Le problème, je crois, c'est que dans tous ces livres de développement personnel, dans tous ces espaces de coaching et autres, on a l'impression qu'on n'est pas en train de faire de la politique. On a l'impression que finalement la politique s'arrête à la porte de ces studios, à la porte de ces espaces de pratique. Et en fait, dans ces espaces, il y a une idéologie. Plusieurs, peut-être. Il y a des croyances, un certain nombre de croyances. Et c'est pas marqué au début de votre livre de développement personnel. Attention, ici, croyance néolibérale. Ou attention, ici, dérive fasciste. Et pourtant, on voit bien que, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, sur YouTube, aujourd'hui, il y a tout un tas de coachs qui, quand on connaît un peu, quand on creuse un peu, on se rend bien compte qu'ils ont une pensée d'extrême droite, une pensée littéralement fascisante. En France, par exemple, c'est souvent parce que on va avoir des coachs en développement personnel qui vont être très masculinistes, c'est-à-dire dans une pensée très misogyne vis-à-vis des femmes, une violence et croyance que les femmes sont inférieures, etc. Ou alors, souvent, une pensée très inspirée d'une interprétation un peu foireuse du philosophe Nietzsche et de son fameux concept de volonté de puissance, selon laquelle il y aurait des gens avec de la volonté de puissance, d'autres avec moins de volonté de puissance, étant entendu que ceux avec beaucoup de volonté de puissance auraient le droit de dominer, voire de violenter les personnes qui en auraient moins. Donc tout ça, c'est des croyances qu'on trouve dans le développement personnel, mais si on n'est pas un petit peu critique, évidemment, on ne se rend pas compte et on arrive à un moment à se dire, mais putain, pourquoi je pense que moi, j'ai plus de volonté de puissance et que du coup, je devrais oppresser les autres. Et
ouais.
Voilà, en fait, on s'est fait avoir.
Oui, c'est ça. Alors, Christy, vraiment bien, ce que disait tout à l'heure Albert Moukébert et ce que dit à l'instant là aussi Camille Test, à propos du développement personnel, c'est qu'on assiste, et on le voit, hein, les autorités aussi s'inquiètent de temps en temps d'une certaine dérive sectaire, d'une certaine pression psychologique des coachs. Est-ce que vous aussi, dans ce milieu-là, vous avez pu constater que certains se servent clairement de l'instruction qu'ils pensent donner finalement aux personnes qui payent leur formation pour essayer de les posséder, pour essayer de les contrôler ?
Alors moi, j'ai quand même une valeur centrale, c'est la liberté. Donc les coachs que j'ai consultés pour moi me former, ce sont des gens où je me suis toujours sentie libre avec eux. Et où j'avais pas du tout l'impression de me sentir embrigadée. Mmh. Et aussi, au moment donné où je me suis dit « j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre de cette personne », eh ben, soit je faisais une pause, soit j'allais chercher autre chose, parce que soit un autre problème surgissait, soit parce que j'étais curieuse aussi de comprendre d'autres trucs. Et j'essaie de faire la même chose avec mes clients. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens ils ont fait le tour de la Christie. Et à ce moment-là, il faut qu'ils partent.
Oui, c'est ça.
Et
oui.
C'est, parfois, ça dure des années. Parfois, ça dure pas beaucoup de temps, quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment se dire, tu es un des maîtres de ton apprentissage. Et c'est à toi de tenir la barre. Et quand tu trouves que le prof que t'as ou le mentor que tu t'es choisi, tu apprends plus grand-chose, va voir autre chose. Ou fais-toi une pause et fous-toi la paix aussi si t'as plus envie, enfin, t'as plus rien à apprendre ou t'as plus envie d'apprendre ou t'es fauché ou t'es crevé ou tu veux un peu être à la plage tranquille, quoi.
Voilà, alors il faut bien distinguer. En effet, il y a des coachs aussi comme vous et puis d'autres qui sont véritablement dans la visée de la Miviludes, qui s'occupent tout de même des dérives sectaires. On en a vu certains, en effet, qui se servent, en effet, du développement personnel pour asseoir leur pouvoir. Alors on va écouter, juste avant de se quitter aussi, une dernière note vocale. C'est Géraldine qui nous l'a adressée via l'appli France Inter et elle-même, elle nous parle justement du personnel, développement personnel et action collective. On l'écoute.
Trop dommage d'opposer le développement personnel et l'action collective, car effectivement, c'est pas parce qu'on fait du développement personnel qu'on va agir collectivement. Cependant, lorsqu'on est très très mal, qu'on n'arrive pas à s'aider soi-même, on ne risque pas d'aider les autres. Le développement personnel m'a permis en fait de prendre soin de moi, de m'occuper de moi, pour être plus en capacité après d'aller vers les autres et de comprendre le monde. Donc, il ne faut pas les opposer, c'est complémentaire en fait. Ça n'empêche pas de se politiser, de questionner effectivement la société dans laquelle nous sommes et la part de celle-ci. Mais on a aussi une part et une responsabilité individuelle.
Voilà Géraldine qui nous a laissé donc ce commentaire sur l'appli France Inter. Albert Moukébert, donc on le voit finalement, enfin tout ça, comme vous le disiez en fait depuis le début, c'est-à-dire que si on prend un peu de recul, tout ça peut se gérer très bien tous ensemble.
C'est un peu trop optimiste pour moi, mais
on essaye, vous savez.
Mais oui, on essaye. Non, en fait, évidemment qu'il y a des personnes qui vont faire du développement personnel et ça va leur faire du bien. Et elles vont pouvoir s'engager, elles vont pouvoir se politiser, etc. Mais il y a une différence entre parler d'individu et de parler de courant, parler de cas théoriques, etc. Les cas théoriques de modèles de développement personnel ne sont pas politiques. Si une personne décide de l'utiliser, tant mieux pour elle. Mais on ne peut pas regarder, encore une fois, il faut regarder des effets de groupe. Quand on a 10 000 personnes qui sont en train de suivre du coaching, combien est-ce que vont mieux, combien vont mal, combien sont empirés, on ne parle pas des effets qu'on appelle iatrogènes, qui causent des maladies. Mmh. Quand on parle de dérives sectaires, quand même, ce n'est pas anodin qu'on demande à des gens d'aller six semaines, ils n'ont plus le droit de parler, on leur donne à manger à une certaine heure, parfois on leur change leur prénom, parfois on leur dit qu'en fait leur boulot n'est pas fait pour eux, ils devraient penser à changer leur carrière. Donc c'est quand même quelque chose d'hyper prescriptif.
Bien sûr.
Et encore une fois, moi, je pense qu'il y a un besoin dans la société pour les coachs, pour ces choses. Mais je pense que, et ça doit venir des coachs, de devenir plus rigoureux. C'est-à-dire de ne plus juste répéter qu'on est en train de stimuler la neuroplasticité. Ça veut rien dire. De plus dire, je suis en train d'augmenter, vous êtes là en train d'augmenter votre stock de dopamine et donc vous allez vous sentir mieux. Ça ne veut rien dire. Donc à un moment aussi, il y a un travail d'autocritique où, comme nous, on essaye de faire en psychologie aussi, où il y a aussi beaucoup de pseudo-sciences en psychologie. Il y a beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, à un moment, il faut aussi ce travail de rigueur intellectuelle, pas nécessairement en utilisant la méthode scientifique, il y a plein de méthodes épistémologiques qui sont valables, mais Parce qu'il y a des choses qui sont, encore une fois, dans les bouquins, dans les modèles théoriques, qui sont factuellement dénuées de conscience politique et factuellement fausses sur le fonctionnement de notre corps.
Christy Van Bremelage, vous comprenez ça, justement, cette autocritique? Est-ce qu'il serait temps, justement, que les coachs, que ce soit en France ou dans le monde aujourd'hui, qui parlent de bien-être, peuvent faire une autocritique, réfléchir à une sorte d'éthique?
Alors, en effet, comme la profession n'est pas réglementée, l'éthique, elle est quand même assez personnelle. Donc, c'est quelle est mon éthique et essayer de prévenir... Voilà les limites dans lesquelles j'exerce.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Camille Test. Il faudrait aujourd'hui, par rapport, en effet, à ces professionnels, on va dire, du bien-être, une certaine éthique. On le voit, c'est pas réglementé. C'est aussi au pouvoir public d'agir dessus.
Peut-être que c'est au pouvoir public, et en attendant, je pense que c'est aussi à tous ces professionnels qui, je crois, sont bien intentionnés, de se poser des questions sur leur propre pratique, sur leur propre biais, sur les croyances qu'ils véhiculent, et sur, voilà, est-ce que vos espaces, ils sont accueillants pour, je sais pas, toutes les personnes, ou est-ce qu'en fait, vous perpétuez des violences racistes, sexistes, validistes, etc., dans vos espaces. Je crois que c'est quelque chose qui peut être fait maintenant, dès aujourd'hui, et qui est urgent.
Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Camille Test, professeure de yoga, ex-journaliste, autrice de Politiser le bien-être, Albert Moukébert, psychologue, clinicien, docteur en neurosciences cognitives, auteur de Votre cerveau vous joue des tours, en effet, on voit que ça peut arriver. Christy Van Bremelage, coach professionnel, autrice de Trouver son Nikikai, voilà, vivre qui nous passionne. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé au débat de midi. Merci également à Étienne Bertin pour la réalisation et Guillaume Roux à la technique. Constance Dulanova, Mathilde Texier, Aloïs Nollet et Savannah Rouelland pour la préparation de cette émission du débat de midi. Nous, bien sûr, on revient demain à midi.